Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Chapitre 1er. Dieu est-il schizophrène? Une des raisons pour laquelle Dieu peut-être aussi facilement discrédité, c'est parce que les gens ne le connaissent pas vraiment d'après sa parole. Or, la seule manière de réellement connaître Dieu, c'est par la Bible. Tout le monde a une opinion sur Dieu et sur ce qu'il doit faire. Toutefois, le seul moyen de le connaître et la seule source fiable, c'est sa parole écrite. Malheureusement, la plupart des chrétiens ne lisent pas régulièrement la parole de Dieu. Ils reçoivent un peu ici et un peu là, tantôt par un prédicateur, à la TV, tantôt le dimanche matin à l'église. Or, le peu qu'ils reçoivent n'est pas suffisant pour changer leur vie de façon significative ou pour affecter leur connaissance de Dieu et de sa nature. Et même pour ceux qui lisent et étudient régulièrement la parole de Dieu, bon nombre de passages bibliques semblent révéler un Dieu schizophrène. J'essaie d'être honnête avec vous. Bien sûr que Dieu n'est pas schizophrène, mais c'est ainsi qu'il peut paraître. Dans un passage, Dieu ordonne la lapidation de celui qui ramasse du bois le jour du sabbat, voire Nombre 15, versets 32 à 35. Alors qu'ailleurs, il pardonne et relaxe une femme surprise en flagrant délit d'adultère, voir Jean 8, versets 3 à 11. De tels exemples laissent parfois une étrange impression sur la personnalité de Dieu. La parole de Dieu ne se contredit pas. Elle est parfaitement harmonieuse dans son ensemble. Cet ouvrage se propose d'harmoniser l'Ancien et le Nouveau Testament afin d'accéder à une connaissance plus complète de la nature de Dieu. L'Ancien Testament dépeint une image incomplète de Dieu. Elle n'est pas incorrecte, elle est simplement incomplète. Les chrétiens qui ne perçoivent la nature de Dieu qu'à partir de l'Ancien ont une image qui n'est ni complète ni juste. Il ne dépeint pas une représentation parfaite de Dieu. Mal comprendre le Nouveau Testament, parce qu'on ne l'harmonise pas avec l'Ancien, conduit à mal interpréter l'amour et la nature de Dieu. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais le Josué de l'Ancien. J'entrais dans la terre promise où Dieu m'avait ordonné de tuer les habitants de toutes les villes, conformément à l'ordre que Josué avait lui-même reçu. Faire une telle chose m'était très dur. Aucune femme, aucun enfant, ni aucun être ayant en lui le souffle de vie ne devait être épargné. Je ne pouvais pas me résoudre à le faire. Je voulais dire, « Seigneur, je ne peux pas faire cela. » Pour compliquer le tout, je découvris qu'un de mes meilleurs amis se trouvait dans l'une de ces villes. J'étais supposée le tuer, lui, sa femme et ses enfants. Je me suis réveillée en pensant, « Oh Dieu, je ne peux pas le faire, c'est impossible !» Toute la matinée, j'ai repensé à ce rêve. Je l'ai médité et j'ai prié pour recevoir son interprétation. Je me disais, « Dieu, comment ces choses peuvent-elles être acceptables ?» J'ai trouvé la réponse en lisant l'Ancien au travers de la révélation du Nouveau Testament. Dieu commença à me montrer que si Jésus avait vécu dans l'Ancien sous une forme humaine, il n'aurait jamais fait ce que Josué avait fait. Cela ne veut pas dire que Josué avait tort. Il obéissait à Dieu et, dans de telles circonstances, Dieu ne pouvait qu'agir ainsi. Toutefois, tout ce que fit Dieu au travers de Josué n'est pas une représentation véritable et complète de sa nature. D'ailleurs, la révélation du Nouveau Testament ne l'est pas non plus sans celle de l'Ancien Testament. À cause de l'Ancien Testament, beaucoup ont l'impression que Dieu est un Dieu de colère qui extermine celui qui sort de ses voies. Désirant être un grand homme ou une grande femme de Dieu, beaucoup de chrétiens font marche arrière et se mettent à imiter les croyants de l'Ancien Testament. Tant et si bien qu'à chaque fois qu'on parle d'un prophète ou de quelqu'un qui sert dans cette onction, on en parle comme de quelqu'un de dur et de cruel. Ces chrétiens-là pensent ressembler à Élie, le vieux prophète qui pointait son doigt osseux sur votre visage en vous disant les quatre vérités. En parlant d'Élie, on s'imagine qu'il enseignait en réprimandant, en fustigeant, en frappant de famine ou en consumant par le feu. Il existe pourtant des exemples de vrais prophètes qui n'étaient ni durs ni cruels, mais en général on a l'impression qu'Élie est le profil type du prophète. Les jeunes croyants qui pensent être prophètes se prennent pour l'éclair de Dieu sur terre. Attirer le jugement et la colère de Dieu et frapper ceux qui sont hors de ses voies. Penser ainsi dénote une mauvaise compréhension du ministère de prophète. Et cette façon de penser ne reflète certainement pas la nature de Dieu. Même si plusieurs exemples similaires existent sous l'Ancien Testament, cela ne veut pas dire qu'ils reflètent la nature de Dieu dans sa totalité. On doit savoir à qui on a affaire. Si vous ne connaissez pas la nature de Dieu, ou si vous ne le comprenez pas vraiment, vous ne pourrez jamais bénéficier des bénédictions et de la puissance divine, et ce en dépit des Écritures que vous connaissez ou de celui qui vous les a enseignées. Comme je l'ai dit auparavant, et le répéterai tout au long de ce livre, vous devez arriver au stade où vous connaissez Dieu au travers d'une relation intime avec lui. Les idées religieuses, engendrées par une incompréhension des Écritures, empêchent les chrétiens d'entrer en relation étroite avec Dieu. Beaucoup d'entre nous avons peur de nous approcher de Dieu parce qu'on nous a enseigné ou nous avons eu l'impression qu'il allait nous matraquer. De nombreux croyants ont l'impression de devoir faire des courbettes, ramper, se mettre à plat ventre, et devoir se rabaisser à chaque fois qu'ils vont devant Dieu. Ce n'est ni conforme à l'idéal que Dieu a d'une relation, ni en accord avec ce que sa parole enseigne. Dans 1 Roi 21, versets 1 à 24, Achab et Jézabel sont probablement les deux personnages les plus sordides de l'histoire. Est certainement le roi et la reine les plus corrompus d'Israël. Tous deux conspirèrent pour tuer Naboth, un homme innocent, afin de posséder sa vigne. Ils firent lapider à mort Naboth et jetèrent son corps dans un champ, où les chiens léchèrent son sang. Pendant qu'Achab se promenait dans sa nouvelle vigne, il vit Élie, le prophète, et dit: « M'as-tu trouvé, mon ennemi ?» Élie répondit: « Je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Alors Élie reprit Achab et dit: « Ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisraël. » Ces prophéties mirent un certain temps avant de s'accomplir. Achab fut tué dans une guerre, et quand il fut ramené chez lui, les gens allèrent laver son char. Pendant qu'ils le lavaient, les chiens vinrent lécher le sang d'Achab. Voir en Roi 22, verset 38. Il en fut de même pour Jézabel. Lorsque Jéhu devint roi, il ordonna qu'elle soit précipitée du haut de sa fenêtre et elle s'écrasa au pied de la muraille. Jéhu la foula avec son chariot et mutila son corps. Puis il entra au palais, s'assit et se mit à manger. En plein milieu du repas, il dit quelque chose comme « Bien qu'elle ait été une méchante femme, elle est quand même fille de roi. Il faut donc enterrer son corps. » Lorsque Jéhu envoyait des serviteurs enterrer son corps, ils ne trouvèrent plus que la tête, les mains et les pieds. Le reste du corps avait été mangé par les chiens. Voir 2 Rois 9, versets 30 à 37. Les prophéties d'Élie se sont déroulées exactement comme il l'avait prédit. On ne plaisantait pas avec Élie. Dans 2 Rois chapitre 1, nous lisons l'histoire d'Achazia, le fils d'Achab. Achab et Jézabel avaient tant péché contre Dieu qu'Élie, prophète de Dieu, annonça la terrible fin de leur vie. Achazia avait vu les prophéties s'accomplir, mais ce n'est pas pour autant qu'il portait plus que ses parents Élie dans son cœur. Achazia marcha sur les pas de ses parents. Il ne rechercha pas le seul vrai Dieu. Il se tourna vers les dieux étrangers. Lorsqu'il tomba malade, Achazia envoya des messagers consulter le dieu Baal-Zébub à Écron, au lieu de demander à Dieu de le guérir. Selon 2 Rois 1, versets 3 à 8, les messagers rencontrèrent en route Élie qui leur dit « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron ? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Achazia, et il leur dit « Pourquoi revenez-vous ? » Ils lui répondirent « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui. » Ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron ? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Achazia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent, « C'était un homme vêtu de poils et portant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Achazia dit, « C'est Élie, le Tishbite. » Sachant que c'était Élie, le roi saisi d'effroi envoya ses armées le capturer. Les versets 9 et 10 disent « Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. » Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit « Homme de Dieu, le roi a dit « Descends !» Élie répondit au chef de 50 « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. C'est relativement impressionnant, n'est-ce pas? On ne plaisantait pas avec Élie. Achazia envoya une armée, 50 hommes et leur capitaine, capturer Élie. Mais Élie fit descendre du ciel un feu qui consuma les hommes du roi. Continuons aux versets 11 et 12. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Élie lui répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Cela faisait au total 102 hommes. Certains pensent « C'est sûrement Satan qui a fait cela. » Pourtant, le verset 12 dit « Que ce fut le feu de Dieu qui descendit du ciel. » Élie avait un tel accès à la puissance de Dieu qu'il pouvait consumer les gens. Il pouvait tuer les gens avec la puissance et l'onction de Dieu. Cela ressemble au passage d'Apocalypse 11, verset 5, qui dit « Que du feu sortira de la bouche des deux témoins et dévorera toute personne qui s'opposera à Dieu. » Pour défendre Élie, Dieu fit tomber le feu du ciel et 102 hommes périrent. Finalement, un troisième capitaine et ses 50 hommes vinrent trouver Élie. Mais ce capitaine-là craignait Dieu. Une paraphrase serait « Aie pitié de moi, je ne fais que ce que le roi me demande de faire. » Dieu dit à Élie de suivre cet homme et de se rendre auprès d'Achazia. Dieu protégea Élie, tant et si bien qu'aucun des hommes du roi ne put lui faire de mal. Il n'eut plus besoin de commander au feu de descendre du ciel et de consumer quiconque. Mais savez-vous qu'Élie aurait pu résoudre le problème autrement? Dans cet exemple de l'Ancien Testament, Dieu manifesta sa puissance, son onction et sa colère pour défendre un de ses prophètes. À présent, comparons l'histoire d'Élie avec celle de Luc 9, versets 51 à 53. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Dieu avait ordonné que les Juifs ne l'adorent qu'à Jérusalem, voir 2 Chroniques 6, verset 6. Dans cette ville, il avait fait bâtir son temple où était placée l'Arche de l'Alliance. À un moment de leur histoire, les enfants d'Israël se rebellèrent contre Dieu et les 10 tribus du Nord furent emmenées en captivité par les Assyriens. Seules les 2 tribus du Sud, celles de Benjamin et de Juda, restèrent sur leur territoire parce qu'elles avaient continué à adorer à Jérusalem. Après que les tribus du Nord aient été emmenées captives, le roi d'Assyrie colonisa le pays où elles avaient vécu afin que les gens ne soient pas incultes. Ces colons se marièrent avec le reste des 10 tribus qui n'avaient pas été déportées. En se mariant avec les Assyriens païens, les Juifs perdirent leur identité et désobéirent directement au commandement de Dieu qui leur avait été ordonné de ne pas s'unir à ceux qui adoraient les dieux d'étrangers. Parce que les Assyriens ne suivaient pas les voies de Dieu, les bêtes sauvages commencèrent à se multiplier dans les champs. La Bible dit, dans 2 Rois, au chapitre 17, que Dieu envoya contre eux des lions qui les dévorèrent. La terre promise, qui avait été une bénédiction d'abondance pour les Juifs, commençait à présent à produire des bêtes sauvages qui dévoraient les Assyriens. Un compte-rendu de la situation fut envoyé au roi assyrien. Il relaxa quelques sacrificateurs hébreux pour qu'ils retournent dans la terre promise et enseignent aux Assyriens les voies du Dieu d'Israël. En apprenant à être agréable à Dieu, ils ne seraient plus attaqués par les animaux sauvages. Même si les colonies assyriennes commencèrent à apprendre et à pratiquer ce qui plaisait à Dieu, leur cœur ne changea pas pour autant. Ils restèrent des adorateurs païens qui n'avaient qu'incorporer leurs pratiques païennes aux rituels juifs. Ils faisaient le minimum pour apaiser Dieu et se sortir des griffes des animaux sauvages, mais ils n'adoraient pas Dieu sincèrement. Résultat, les tribus du Nord devinrent une race mixte, appelée les Samaritains. Ce fut l'origine des problèmes raciaux en Israël. Les Juifs pieux de Jérusalem haïssait les Samaritains qui avaient corrompu l'adoration. Jean 4 le montre dans le passage où Jésus s'adresse à la Samaritaine au puits de Jacob. Il existait une profonde haine religieuse et de forts préjugés raciaux entre les Juifs et les Samaritains. Les Juifs n'avaient aucune relation avec les Samaritains. Dans Luc 9, Jésus était déjà allé vers les Samaritains. Toute la ville de Samarie lui avait répondu favorablement. Il l'avait accepté comme Messie. Pourtant, dans Jean 4, lorsqu'il repassa par leur ville, ils refusèrent de le recevoir parce qu'il allait adorer à Jérusalem avec les hypocrites. Les Samaritains rejetèrent Jésus à cause de son association avec les Juifs, un rejet basé sur la religion et le préjugé racial. Ses disciples, Jacques et Jean, considérèrent que rejeter ainsi Jésus était très grave. Ainsi virent-ils rouge, ce qui était une réaction digne de l'Ancien Testament. Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Luc 9, verset 54. Puisque dans 2 Rois 1, verset 10, Élie avait eu de bonnes raisons de faire descendre le feu du ciel sur les soldats qui avaient rejeté le Dieu d'Israël, de même Jacques et Jean en avaient probablement autant de vouloir tuer les Samaritains qui venaient de rejeter Jésus. Rejeter le Seigneur Jésus était à leurs yeux si grave qu'ils voulurent imiter Élie, le grand homme de Dieu. Les deux disciples se référaient à un exemple scripturaire. Imiter Élie était conforme à la parole de Dieu. Que répondit Jésus à ces loyaux disciples zélés? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Luc 9, versets 55 à 56. Jésus réprimanda Jacques et Jean pour avoir essayé de faire ce qui avait été fait sous l'Ancien Testament. Il les réprimanda pour avoir essayé d'être comme Élie, un des plus puissants homme de Dieu qui ait jamais vécu sous l'Ancien Testament. Cela signifie-t-il qu'Élie avait péché? Non. En ce temps-là, Dieu procédait d'une autre façon avec l'être humain. À l'époque, c'était la seule méthode à laquelle il pouvait recourir. Si les gens ne considèrent pas la parole de Dieu dans son ensemble, en examinant l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, l'idée qu'ils ont de Dieu relève généralement de l'Ancien Testament, un Dieu de colère, de jugement et de punition. C'est une vérité à propos de Dieu. En effet, ceux qui n'acceptent pas l'amour et le pardon du Seigneur Jésus-Christ expérimenteront un jour le terrible jugement de Dieu. Mais le courroux et le jugement ne définissent pas à eux seuls tout son caractère. La nature de Dieu ne se réduit pas au jugement. L'inverse ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Il est vrai qu'il juge et qu'il est saint, mais dans 1 Jean 4, verset 8, les Écritures nous révèlent aussi que Dieu est amour. L'amour est la véritable nature de Dieu. Il n'a pas que de l'amour, ou il n'agit pas seulement par amour. Dieu est amour. L'amour est le vrai caractère de Dieu. Les actes d'obéissance d'Élie ne représentaient pas entièrement la nature de Dieu. L'Ancien Testament seul ne peut pas nous donner une révélation complète de Dieu. Nous avons besoin du Nouveau Testament pour concevoir pleinement la nature divine. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, versets 1 et 14. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Jean 14, verset 9. Jésus est la parole vivante qui marcha sur terre, et quand nous le voyons, nous voyons le Père. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils perçoivent Dieu à travers l'Ancien Testament au lieu de le percevoir à travers Jésus. Ce faisant, ils sont confus et ils n'arrivent pas à comprendre qui il est vraiment, ni le genre de relation qu'ils désirent avoir avec eux. Sous l'Ancien Testament, Dieu s'y prenait d'une manière différente vis-à-vis de l'être humain et du péché. Dans les chapitres suivants, nous allons l'étudier. Jésus, lui, apporta la vraie révélation du Père et procéda d'une manière très différente. Je crois personnellement que si Jésus avait vécu sous une forme humaine, sous l'Ancien Testament, il aurait réprimandé Élie. Josué n'aurait jamais eu à tuer les hommes, les femmes et les enfants des villes du pays de Canaan et Moïse aurait été repris sur beaucoup de points. Vous vous demandez peut-être comment on peut oser affirmer de telles choses. La parole de Dieu montre clairement que Dieu n'a jamais eu l'intention de traiter l'être humain aussi durement. La dureté n'a jamais fait partie de sa vraie nature, ni de son caractère. Par ignorance, nous avons une impression mitigée sur Dieu. Nous ne le connaissons pas tel qu'il est. La plupart de nous ne discernons pas vraiment la profondeur de l'amour, de la grâce et de la compassion que Dieu nous porte. Et c'est cette impression erronée de Dieu qui nous tient à distance de lui, d'où l'importance d'harmoniser toute la parole de Dieu. Ce n'est qu'alors que l'on comprend vraiment sa vraie nature. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux 1, versets 1 à 4. Selon le verset 3, Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. En d'autres mots, Jésus est l'exacte représentation de Dieu, sa vraie nature révélée. Dans les chapitres suivants, nous allons voir que l'amour, la miséricorde et le pardon de Dieu offerts dans le Nouveau Testament au travers de Jésus-Christ étaient déjà à la disposition de l'être humain sous l'Ancien Testament. Mais compte tenu de la réaction de l'homme face à la bonté de Dieu dans l'Ancien Testament, il fut forcé de traiter la race humaine plus durement qu'il ne l'avait souhaité. En harmonisant l'Ancien et le Nouveau Testament, nous voyons clairement que Dieu n'est pas schizophrène.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.